Bonjour. Bien, merci d'être là. Merci de venir nous écouter sur cette table ronde sur les temps parallèles de l'Uchronie. Je pense pour ceux qui s'intéressent à l'Uchronie que vous avez déjà pu entendre des choses sur ces questions. On va essayer de ne pas trop nous répéter, mais évidemment, nous serons obligés de passer par certaines figures obligatoires pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas les choses. Notamment, nous serons obligés de la définir, mais vous constaterez que toutes les définitions ne se valent pas. Je suis donc Simon Bréant, je vais m'occuper de canaliser autant que possible les forces productives de nos invités et je vous indique que j'ai l'habitude d'ouvrir les questions à mi-parcours pour quelques questions avant de relancer avec les invités. Donc vous pouvez préparer vos questions pour dans une vingt-cinq minutes s'il vous en vient. Voilà. Alors, Michael Moorcock, comme vous le savez, je suppose, ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais nous ne nous priverons pas d'évoquer son œuvre qui est sans doute, de manière souterraine, plus ou moins évidente, sous l'intitulé de ces temps parallèles de l'Uchronie, puisque dans cette idée, il y a aussi l'idée d'une rencontre entre Uchronie, donc histoire alternative, multivers, univers parallèles, variantes de notre univers. Nous essaierons d'explorer un petit peu ces questions. Alors, avec des si, on mettrait la cité des congrès en bouteille, mais l'opération inaugurale du et si est propre à l'Uchronie, enfin pas propre à l'Uchronie, mais dans sa version uchronique, renvoie à un plaisir assez particulier, éventuellement à une forme de culpabilité intime. Qui est celle, enfin un plaisir, qui est celui du scénario contrefactuel. Ce qui n'a pas eu lieu, mais qu'on parvient à imaginer dans ses moindres détails. À l'échelle d'un pays ou l'histoire du monde, ça peut donner des questions très vastes, comme celle qu'aborde par exemple Roland C. Wagner dans Rêve de gloire, où il imagine une version différente de la décolonisation de l'Algérie. Nous en parlerons peut-être un peu plus tard. Pour ce qui est de Michael Moorcock, je mentionnerai, mais il y aurait plusieurs œuvres à mentionner, bien sûr, sa trilogie du Nomade du Temps, par exemple, Le Seigneur des Airs, dans lesquelles, finalement, Moorcock s'interroge sur le devenir d'empires coloniaux qui auraient pu perdurer et ce que ça aurait pu donner. D'une manière générale, ce n'est pas très positif. Robert Silverberg, lui, dans Roma Aeterna, propose l'idée d'un empire romain qui ne s'effondre pas et qui poursuit sa route avec des échos évidemment de questions qui peuvent être des questions historiques posées à différentes étapes. Et il y a dans ce roman-là particulièrement un certain plaisir à la fois à retrouver des Romains, enfin du péplum en quelque sorte, à la rencontre de différents styles historiques différents, et il y a en même temps des interrogations assez concrètes sur ce que signifie l'histoire, la réalité de notre propre histoire. Et à l'ombre de l'histoire avec sa grande hache, eh bien, on peut suivre le destin de personnages singuliers ou personnages qui sont en général rendus exceptionnels par le roman, ou qui peuvent être exceptionnels par leur figure. Je pense par exemple à ce que Christophe Lambert, qui est avec nous, a proposé dans « Aucun homme n'est une île », dans lequel on suit Ernest Hemingway à la rencontre de Castro et Che Guevara pendant une invasion américaine de Cuba qui donc évidemment n'a pas eu lieu. Éventuellement aussi, nous pourrons parler de Tancrède, donc personnage éponyme donc, du roman donc, du même nom de Hugo Bellagamba, dans lequel on voit incarné dans ce personnage le destin alternatif d'un Orient et d'un Occident médiévaux en meilleure communication, du moins en communication différente de celle qu'on a pu leur connaître. Alors, l'histoire alternative, finalement, permet de tout imaginer, mais ne se cantonne pas forcément à des questions qui relèveraient du simple imaginaire ou du simple fantasme. Et un des points que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui, c'est la question du rapport de l'Uchronie à l'histoire. Et dans quelle mesure l'exercice uchronique permet ou non de mieux aborder la réflexion, la pensée de l'histoire. Alors, dans un premier temps, nous parlerons de l'Uchronie en général et de ce que peut signifier l'idée de l'Uchronie comme dans des rapports à un autre concept qui est celui du multivers éventuellement. Et dans un deuxième temps, après une première série de questions, nous interrogerons la question de la pensée de l'histoire à travers l'Uchronie. Bon, évidemment, mes invités se saisiront de ces questions à leur gré. Je ne les guiderai pas de façon trop dirigiste. Nos invités, justement, Bertrand Campeys, tout au bout à gauche, qui est un spécialiste de l'Uchronie, que vous avez déjà sans doute pu entendre sur ces questions, et lire éventuellement dans son guide de l'Uchronie, paru chez ActuSF et co-écrit avec Karine Goblet. À la droite de Bertrand Campeys, Vincent Bontemps, qui est philosophe, philosophe des sciences, qui vient de sortir, je l'ai appris juste avant, un livre qui a l'air passionnant sur les idées noires de la physique, et qui, d'une manière générale, propose des réflexions sur la philosophie des sciences, sciences et techniques, mais qui a aussi eu l'occasion de réfléchir à la question de l'Uchronie, il nous en parlera. Donc Christophe Lambert, que j'ai déjà mentionné et que vous connaissez sans doute également, qui est un écrivain qui a proposé plus d'une trentaine de romans. Plusieurs de ses romans tombent clairement dans le champ de notre table ronde d'aujourd'hui, La Brèche et Aucun homme n'est une île, qui ne sont pas les moindres. Et enfin, Hugo Bellagamba, qui a été directeur artistique du festival, je pense qu'il adore qu'on le lui répète, de 2012 à 2015, c'était une antiphrase, et qui a, outre donc ses différentes activités professionnelles universitaires, ça une persona très forte d'écrivain, de grande figure de la science-fiction française, et notamment de spécialiste de l'Uchronie, qui est un domaine dans lequel il a fait notamment Tancred, mais aussi réfléchi d'une manière générale. Alors, je pose la question, et nous allons peut-être commencer par Bertrand Campeys, la question très générale pour ouvrir cette réflexion sur finalement votre propre définition de l'Uchronie, et j'espère que vous aurez à cœur de proposer une définition cumulative, c'est-à-dire d'explorer les manques ou les compléments à apporter à chacun, et donc, mais je mets la barre très haute en commençant par Bertrand Campeys.
Merci. Alors, pour faire simple, et j'ai l'impression de me répéter en fait depuis ce matin, l'Uchronie est basée en fait sur le mot utopie. Utopie, donc U en grec, nom, et topos, lieu, donc un non-lieu, un lieu imaginaire, une cité fantastique généralement où les gens vivent en bonne intelligence et en parfaite harmonie. Puis généralement après ça part en cacahuète, mais ça, j'allais dire, c'est un peu la nature humaine. Donc Uchronie, lui, se base sur le U, nom, et le chronos, temps. Donc un temps imaginaire, un temps qui n'a pas existé, mais qui aurait pu advenir. Donc la première Uchronie au monde a été écrite par un Français, Cocorico, Louis-Geoffroy Chateau, Napoléon apocryphe ou la conquête du monde, où celui-ci ne rentre pas dans Moscou en 1812 et décide, après avoir foutu une pâtée monumentale aux Russes, de partir à la conquête du monde entier. Ça se passe bien et à la fin, il devient l'équivalent d'une espèce de dieu en mourant. Peu après sort un livre qui donnera son nom au genre, quoique à ce niveau-là, est-ce qu'on peut réellement appeler ça un genre ? On pourra revenir là-dessus. Donc Uchronie qui lui traite, dans mes souvenirs, d'un empereur romain qui ne donne pas en fait les pleins pouvoirs à son fils absolument adorable et mignon qui est Commode, et rétablit le paganisme. Et ensuite, il va y avoir différents soubresauts pour voir si cette histoire tente de rentrer dans les rails que nous connaissons, en sort, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la définition, pour ainsi dire, la plus sérieuse que vous pouvez trouver. Histoire imaginaire telle qu'elle aurait pu advenir, mais qui n'est pas arrivée. Ensuite, par ici, vous avez tout un tas de différentes personnes qui vont certainement vous en donner d'autres à différents degrés. Chez Christophe Lambert, on ne peut pas réellement dire que c'est une uchronie basée sur le regret, car il y a énormément de regrets. Alors, je ne dis pas que si vous lisez une uchronie où le nazisme l'a emporté, vous êtes forcément... vous regrettez automatiquement que le nazisme n'allait pas emporté pour tout un tas de bonnes raisons, je l'espère, mais nous ne les partagerons pas autour d'une bière. Mais tout simplement, regretter justement, ça a pu être venu. Un Français va regretter que l'Empire français se soit effondré, tout comme un Britannique va regretter, peut-être qu'ils le font encore d'ailleurs de manière plus que consciente actuellement, que l'Empire britannique se soit effondré. Un Américain va se poser de grandes questions par rapport à l'existence même de l'État américain, si ce n'est pas de sa civilisation, suite à la guerre d'indépendance ou à la guerre de sécession, moment où l'État même de l'État, pour ainsi dire, tel qu'il le voit, va se mettre en place. Dans le cas de Christophe, donc pour revenir à nos moutons, on tombe plutôt sur une uchronie pop-corn, où on s'empare de thèmes, j'allais dire, qui font partie de l'imaginaire au quotidien. Dans son cas, il peut y avoir aussi bien Alamo, il peut y avoir justement Cuba et ainsi de suite. Et derrière Cuba, il y a le Vietnam. Donc, je dirais, ce sont des uchronies mentalement cinématographiques où vous repassez le film et vous vous amusez à vous dire, ah ben tiens, si on avait modifié tel ou tel truc, qu'est-ce que ça aurait été ? Ou ici ou là-bas, je dirais, il y a des uchronies à vocation nettement plus philosophique. Qu'est-ce que t'en crêtes si ce n'est finalement notre rapport à l'autre et le rapport de l'Occident à l'Orient ? Et là, je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc je vais laisser les autres parler.
Alors, merci d'avoir préempté les réponses de nos invités. On va leur laisser le temps de se remettre en demandant à Vincent Bontemps de nous donner un petit peu des éléments.
Moi, en tant que philosophe de l'étape, je peux peut-être approfondir justement sur le livre de Charles Renouvier. Qui est celui qui donne son nom au genre. Et ce genre est propre à la culture francophone parce que les Américains vont utiliser rarement uchronie, ils vont utiliser le genre plus général de histoire alternative quand ils veulent désigner cette variante-là, sinon du what if, du et si, en général, en disant on prend une situation de type identifiable, réaliste, et on modifie quelque chose. Alors que ce soit justement dans l'uchronie, ben, on modifie, il y a une bifurcation dans l'histoire. Voilà. Or, ce qui est intéressant avec le livre de Renouvier est intéressant à plusieurs titres. Bon, il est illisible, il est très laborieux, et puis on manque de la culture en fait qui permet de jouir des différences qu'il instille dedans, qui demandent des humanités qui étaient présentes à cette époque dans l'élite et qui sont plus présentes chez nous en fait. Mais sinon, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'il est le premier, avant le grand historien britannique Giddens, à faire cette hypothèse que si le christianisme n'avait pas pu se développer à Rome, l'Empire romain aurait survécu. Chose que vous retrouverez donc chez Silverberg et chez d'autres auteurs, cette hypothèse-là. Mais, et puis, il écarte, comme dans le film Gladiator, il écarte Commode du pouvoir aussi. C'est aussi des trucs qu'on voit qui ressortent régulièrement de la chose. Et il y a derrière une réflexion qui est probablement aussi liée au tableau des progrès humains de Condorcet, c'est-à-dire il y a une réflexion sur est-ce qu'on aurait pu s'épargner le Moyen-Âge, finalement. C'est est-ce qu'on peut passer directement de l'Empire antique à la Renaissance, la Réforme et à une période d'expansion des connaissances sans avoir cette période identifiée à l'époque comme une période de régression et les âges obscurs. Donc voilà l'expérience de pensée qui est faite par Renouvier. Ce qui est le plus intéressant peut-être, c'est sa postface, sa conclusion, où il réfléchit au rapport « est-ce que je viens de faire une expérience pensée en histoire expérimentale ?» Mais je crois que tu veux réserver ça pour la seconde partie, donc on le fera dans la seconde partie. Je vais quand même rajouter quelque chose sur la mise en scène de Renouvier, parce qu'elle nous rapporte cette fois-ci par rapport aux univers alternatifs. C'est-à-dire le livre se présente un peu comme le mémoire retrouvé à Saragosse. C'est-à-dire le livre se présente comme quelqu'un qui n'est pas Renouvier ayant retrouvé un manuscrit écrit par un prêtre hérétique au XIIIe siècle qui décrit comme s'il écrivait l'histoire de son propre monde, une histoire qui visiblement n'a pas eu lieu, mais qui, comme elle est écrite au XIIIe siècle, pose un problème puisqu'il sait des choses et des progrès qui sont postérieurs à sa date de mort. Donc en fait, c'est comme si on avait quand même un manuscrit venant d'un monde alternatif tout autant que juste une expérience de pensée sur notre univers. Voilà pourquoi Renouvier est même si le livre est très fastidieux, la structure du livre est fascinante en elle-même.
Oui, la question se pose effectivement dans l'Uchronie. On y reviendra peut-être sur la question du rapport à l'histoire, du cadrage énonciatif en fait de l'ouvrage, comme exactement Vincent Bontemps vient de l'exprimer. Et on est finalement une des modalités de l'Uchronie qui parfois n'est pas visible, c'est celle de l'artefact science-fictionnel, c'est-à-dire de l'objet venu d'un autre monde et qui, en même temps qu'il nous raconte quelque chose, nous donne des indices concernant son environnement de production. Ça, c'est une des modalités, mais justement, dans la logique du multivers, on va en voir sans doute d'autres. Hein. Et je ne sais pas, Christophe Lambert, Hugo Bellagamba, qui souhaite reprendre le flambeau ?
Alors moi, je dirais de manière très synthétique, l'Uchronie, pour moi, c'est un récit qui se déroule dans le passé, mais un passé qui n'est pas conforme à la version qu'on trouve dans les manuels d'histoire, en tout cas à la version officielle. Alors après, il y a des auteurs d'Uchronie qui se focalisent sur le moment charnière, le point pivot. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette famille-là, les wargamers, enfin ceux qui aiment bien rejouer la bataille à l'infini. Et moi, je suis plutôt dans cette mouvance-là. Et puis, il y en a d'autres qui vont embrasser un champ de focus beaucoup plus large avec les conséquences sur la société après le moment de distorsion, après le moment de bascule, quelles ont été, par un jeu de domino, quelles ont été les conséquences à l'échelle d'un pays, d'un continent, de la planète tout entière. Et moi, c'est vrai que le point de bascule m'intéresse davantage que les conséquences futures. Hein. Si je devais parler des Vikings et des États-Unis, je me focaliserais sur leur arrivée, comment ils se sont confrontés, heurtés aux tribus amérindiennes, mais je n'irais pas situer l'action 200 ans dans le futur avec des Mac Odin, des billets de banque avec Thor sur le billet de banque. Enfin, j'imaginerais pas une société américaine vikinisée, si je puis dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue dramaturgique, c'est le moment où tout est possible.
Alors, pour ajouter à tout ce qui a été dit, donc d'abord sur Renouvier, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Vincent Bontemps, qui a fait une très bonne analyse. J'ajouterais une petite chose sur Renouvier qui l'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une dimension politique aussi de l'Uchronie. Hein. Même si l'Uchronie n'est jamais une forme de révisionnisme, hein, puisque le moteur de l'Uchronie, c'est de se situer dans la fiction ou Chronos, comme ça a été dit par Bertrand, c'est effectivement un lieu, un temps qui n'existe pas. Donc on est vraiment dans la fiction. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'histoire réelle, mais de voir ce qu'elle aurait pu être. Et la dimension politique, pour Charles Renouvier, elle est très forte aussi. C'est que c'est un philosophe républicain. Il écrit l'Uchronie en 1857, elle est publiée en 1876. Il écrit sous le Second Empire, et il écrit contre l'Empire. C'est quelqu'un qui veut le retour de la République. C'est un 48art, c'est quelqu'un qui a vécu 1848. La Révolution, le printemps des peuples de 1848, et à travers son Uchronie qui montre un peu le retour de la République à la place de l'Empire romain finalement, eh bien il montre qu'on peut rêver le retour de la République dans la France de le Second Empire. Et donc il y a quand même une dimension de l'Uchronie qui est un engagement aussi, un discours critique, un discours politique qu'on retrouve dans la science-fiction en général, c'est-à-dire une tension qui amène le public, le lecteur, à se poser la question de était-il inévitable, le retour de l'Empire était-il inévitable ou pas ? Et au fond, il y a cette dimension qui est très importante. Ça, je voulais l'ajouter par rapport à tout ce qu'a dit Vincent. Et puis, une petite chose aussi qu'on pourrait ajouter. Bien sûr que l'Uchronie, en tant que retour sur l'histoire, elle naît avec la plume de Louis Geoffroy et avec Charles Renouvier, comme ils l'ont très bien dit tous les deux. Mais on peut trouver un petit antécédent au XVIIIe siècle. Tu as cité Condorcet. J'ajouterai Louis-Sébastien Mercier. Louis-Sébastien Mercier qui écrit l'an 2440 en 1771 où il situe pour la première fois, et c'est une première en France, hein, pour la première fois une utopie, un monde meilleur dans le futur. Et littéralement, au sens strict du terme, c'est une uchronie, c'est-à-dire le récit utopique d'un futur qui n'existe pas encore. Donc si on complète ce qu'a dit Vincent, on pourrait voir d'une certaine manière la naissance de l'uchronie au XVIIIe siècle et puis sa création en tant que forme littéraire véritable au 19e avec Louis Geoffroy et Charles Renouvier, et ensuite sa diffusion, son expansion, sa vitesse de libération finalement dans l'imaginaire de la science-fiction avec tous les auteurs qui au 20e siècle s'y sont frottés. Voilà, pour ajouter un petit peu, et on parlera du rapport à l'histoire dans une deuxième partie.
Et je suis même tenté là d'ouvrir une première fois à deux questions du public. Avant d'envisager la question du multivers et la question du voyage dans le temps dont j'aimerais parler aussi. Mais je laisse la possibilité au public de poser une, deux questions, sauf si personne n'a envie de poser de questions à ce stade. Voilà. Si, une question ?
Bonjour, oui, en fait, c'est juste une petite question. C'était pour savoir du coup quelle était la différence entre une uchronie qui se passait dans le futur et une anticipation, en fait, du coup.
Alors sur, y a une table ronde sur ça. C'était hier ou avant-hier, je crois, sur uchronie versus anticipation. Mais je vais essayer de vous la résumer rapidement. En fait, c'est exactement presque la même chose. La seule chose qui change, c'est l'intention de départ. L'intention de l'auteur d'Uchronie, c'est vraiment une intention de revisiter l'histoire, mais dans un but spéculatif. L'anticipation, c'est de chercher les contours du futur de façon spéculative aussi. Les deux se rejoignent parce qu'en réalité, on cherche à reconstruire ou à construire une société qui n'existe pas encore, qui aurait pu exister ou qui existera peut-être. Donc le point de départ en fait, de l'Uchronie et de l'Anticipation ne sont pas les mêmes. L'Anticipation part du présent, elle est, comme l'avait très bien dit Simon Briand dans cette table ronde, elle est connectée au présent. Elle démarre à partir du présent. L'Uchronie, elle est simplement la même démarche spéculative, mais elle démarre d'un présent qui n'existe plus, qui était un présent du passé qu'on a légèrement décalé. Donc au fond, madame, vous avez pointé du doigt le fait que l'Uchronie, dans sa charge spéculative, c'est la même chose qu'une anticipation, mais qui joue sur l'histoire, tout simplement.
L'Uchronie parle aussi du présent. Hein. Généralement, on n'est pas hermétique à l'époque à laquelle on écrit, donc fatalement, on est influencé.
On est très influencé. Je disais que Renouvier avait un discours républicain. Chaque fois qu'un auteur d'Uchronie écrit une Uchronie, il est imprégné par son présent. Vous avez cet historien, alors c'était peut-être pour la deuxième partie, mais,
non, mais allons-y,
un
allons-y.
Historien britannique qui s'appelle Arnold Toynbee, qui avait coutume de dire, qui a travaillé sur une histoire générale de l'humanité, qui avait coutume de dire que l'historien est l'esclave de ses sources et un peu de son environnement, finalement, comme le potier est l'esclave de l'argile. C'est-à-dire qu'au fond, il est imprégné de ce qu'il a d'abord à sa disposition pour travailler, et puis de ce qu'il a autour de lui. C'est pour ça que, par exemple, tous les historiens ne décrivent pas les périodes historiques sur lesquelles ils se penchent de la même façon, selon qu'ils appartiennent à une époque différente. Marc Bloch, le médiéviste français, ne décrit pas le Moyen-Âge comme le fait Jacques Le Goff, par exemple. Et l'auteur d'Uchronie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'écrire une Uchronie sur Napoléon à l'époque de Louis Geoffroy, aujourd'hui, écrire une Uchronie sur Napoléon, ça ne donne pas du tout, évidemment, les mêmes résultats, ce n'est pas les mêmes centres d'intérêt, ce n'est pas la même charge spéculative ni charge critique éventuellement sur l'Empire.
Ça se voit justement dans le roman de Valéry Giscard d'Estaing, La victoire de la Grande Armée,
oui,
où on repart finalement sur le fantasme d'un Napoléon conquérant, mais où là, pour le coup, vous avez une vision de l'Europe et du rôle justement du grand homme dans l'histoire. Alors moi je rajouterais juste mon grain de sel bien personnel et bien hypothétique. Personnellement, au stade où j'en suis, je considère de l'Uchronie comme de la SF à rebours. Ça fait partie de la SF, on tombe dans l'imaginaire de la SF. Auparavant, vous avez des grands courants sur le space opéra, l'histoire de l'humanité au 36e siècle ou que sais-je. Partant du principe, actuellement, au stade où on en est, que nous sommes fermés, pour ainsi dire, la porte des étoiles, pour des raisons économiques ou autres, l'humanité reprend justement, avec l'Uchronie, l'envie de revenir à une période, pourquoi pas, sur laquelle on fantasme beaucoup. Vous avez beaucoup d'Uchronie sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est encore un conflit qui parle toutes générations confondues. Vous avez pas mal, ça rentre en fait, on rentre dans le domaine de la mythologie. C'est si vous avez aussi des Uchronies de fantasy avec des dragons, des hobbits, des nains ou que sais-je, c'est que quelque part le genre, pour ainsi dire, réussit à s'aimer un peu à droite et à gauche. Oui, on est d'accord, il y a des champignons magiques, mais voilà. Mais à ce niveau-là, on joue quand même avec un fond de SF. Vous avez une très belle nouvelle, Premier Empire de Francis Carsac, une nouvelle où des archéologues du futur, l'humanité, la civilisation s'est effondrée. On tombe et en fait on se rend compte sur un chantier de fouilles, deux types discutent et on s'aperçoit que plus de connaissances ou quasi aucune connaissance du passé, ils ont récupéré des éléments disparates dont ce foutu réacteur protoluminique qui doit nous envoyer à la porte des étoiles. Et ils sont tous en train de fantasmer dessus en disant « Mon Dieu, mais quand même, les anciens, qu'est-ce qu'ils étaient forts ? Ils avaient réussi à envoyer des vaisseaux spatiaux vers Alpha du Centaure, etc. » Jusqu'au moment où le chantier, il s'avère qu'il retombe sur des bouquins. Et là, il y a un type qui fait une découverte horrifiante. Il s'aperçoit que les bouquins, ceux sur quoi ils ont baptisé toute leur croyance, c'était des bouquins de SF. C'est putain, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire au reste de l'humanité ? On a tout bâti sur des mensonges. Et au moment où le type est en train de désespérer, on entend à la radio que le premier réacteur protoluminique vient de faire son essai et qui marche impeccable.
Alors, je vais traiter la question de la bordure quand même. L'Uchronie, au départ, la question se posait justement de la frontière avec l'histoire. Parce que d'une certaine manière, tous les historiens écrivent avec une certaine tension uchronique. C'est-à-dire, au sein même d'un récit historique, vous avez quelqu'un qui va soutenir que cet événement est spécialement décisif. Donc d'une certaine manière, il vous suggère, et parfois même il utilisera du conditionnel, pour vous montrer qu'est-ce qui serait pas passé ou passé si jamais ça n'avait pas eu lieu ou lieu différemment. Donc l'Uchronie, comme cette expérience de pensée qui quand même fait la bordure de l'histoire. Et donc pendant un moment, je veux dire, c'est l'intérêt de Renouvier, c'est qu'il a très bien balisé les frontières du genre. Il a dit en quelque sorte, c'est quelque chose qui reste purement réaliste, donc qui n'introduit pas encore de petits dragonnets comme dans les Lames du Cardinal et tout ça. Voilà, c'est pas une Uchronie fantastique, on reste dans quelque chose où nos connaissances sur le monde tel qu'il fonctionne sont maintenues d'ailleurs. Les connaissances en acteurs d'ailleurs, les acteurs aussi, il n'y a pas quelqu'un qui vient du futur le perturber, voilà, ou un personnage qui apparaît de nulle part. Et on essaye de créer une divergence. Et cette divergence a-t-elle un intérêt scientifique ? Est-ce vraiment une expérience de pensée ? Et c'est là où Renouvier est très fin, ça va rejoindre ce que tu disais au début, Hugo, c'est que c'est un très bon philosophe néo-kantien, en quelque sorte, hein, Charles Renouvier. Donc, il regarde l'intérêt pour la raison théorique, la raison qu'il essaye de connaître. Et il dit, mais en fait, il dessine une ligne, puis ensuite, elle devient fractale, sa ligne. Il y a plein de divergences et tout ça. Et il montre, écoutez, en fait, ça va être circulaire, votre raisonnement. En fonction de ce que vous pensez sur l'importance d'un événement et ensuite les lois que vous mettez sur la divergence, c'est-à-dire est-ce que le temps a tendance à recoller quelles que soient les perturbations sur sa ligne de départ, est-ce qu'il va juste être décalé ou est-ce qu'au contraire il va partir dans une bifurcation complètement divergente, eh bien vous obtiendrez des résultats différents et autrement dit votre récit va confirmer vos hypothèses. Vous ne pouvez pas vraiment faire d'expérience, ça reste, comme il dit dans le langage kantien, problématique. Ce que vous dites peut être vrai ou peut être faux, il n'y a aucun moyen de le vérifier. Et donc il dit, pour la connaissance, ça n'a pas d'intérêt. Alors on dit, mais pourquoi un philosophe a perdu son temps à écrire 500 pages dans ce cas-là ? Oui, c'est un intérêt parce que, en faisant cette expérience pensée, c'est un intérêt pour la raison pratique, celle d'agir, votre liberté, votre conscience politique. Ça vous prouve que, si j'arrive à vous faire penser que le passé aurait pu être différent, vous savez du coup que personne au présent peut vous dire que le futur, there is no alternative. Ça doit anéantir chez vous le fatalisme et vous rendre le sentiment de la liberté. C'est pour ça que l'Uchronie chez Renouvier, c'est un genre philosophique qui est destiné à rendre plus présent le sentiment de la liberté, de la responsabilité à chacun d'entre nous sur un motif politique. Et ça explique aussi pourquoi c'est tout le temps en résonance avec des événements historiques qui continuent pour nous d'avoir un sens dans notre présent. La guerre de sécession pour les Américains, la Deuxième Guerre mondiale pour nous, autrefois la chute de l'Empire de Napoléon pour les Français durant tout le XIXe siècle. Donc c'est ces événements. Et c'est aussi pour ça que les gens qui font profession d'écrivain sont plus imaginatifs maintenant et font des choses qui sortent de ce cadre un peu en allant chercher justement des choses, des micro-uchronies ou des uchronies fantastiques ou des choses comme ça. Le genre, c'est quand même... Je dirais d'un point de vue littéraire, c'est vachement amélioré à partir du moment où on est sorti du cadre balisé par Renouvier, mais parfaitement balisé. On est quand même type, dès 1860, a tout compris.
Juste, je suis absolument d'accord. Désolé, mais juste pour,
aucun problème.
Pour ajouter, parce que je suis hyper tellement content de t'entendre dire ça sur Renouvier. Moi, j'ai travaillé sur Renouvier dans le cadre en histoire d'idées politiques. Personne s'y intéressait. C'était vraiment un drame pour moi. Il y a un article que j'ai publié dans des actes de journée interdisciplinaire, les actes temps qui ont été montrés, un article qui a mis beaucoup de temps à être lu parce qu'on me disait tu t'intéresses à des trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt pour l'histoire des idées politiques, et aujourd'hui ça change et grâce à ce que tu dis je suis entièrement d'accord. Et je vais aller plus loin, c'est-à-dire que l'usage de la raison pratique, exactement comme tu l'as dit, c'est l'un des vecteurs de puissance, de qualité même, de quintessence même de la science-fiction. La science-fiction nous engage à utiliser notre raison pratique. Et dans la conscience politique, c'est la conscience de la société, de la politique au sens de la cité. Et du coup, par rapport à ce que dit Bertrand, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Bertrand, mais je suis obligé de dire que pour moi, l'Uchronie, c'est pas de la SF à rebours. Je suis auteur d'Uchronie parce que je suis auteur de science-fiction. Et quand je fais de l'Uchronie, j'ai pas l'impression de faire de la science-fiction à rebours. Je fais de la science-fiction, c'est-à-dire que je pars d'un élément du passé et j'essaye exactement comme Renouvier de montrer qu'on est capable de le penser autrement et de voir donc tous les futurs alternatifs que nous avons au-delà de celui qu'on veut absolument nous imposer. Et aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à considérablement réduire le champ du futur, à avoir une vision extrêmement pessimiste du futur. Et souvent on dit, le repli de l'Uchronie, c'est le signe du pessimisme du présent. C'est faux. L'Uchronie est une arme intellectuelle pour réouvrir les portes du futur. Et plus on sera capable de repenser notre histoire, plus on sera capable de réinterroger les futures alternatives que nous n'avons pas eues, plus nous serons à même d'inventer de nouveaux futurs. Donc l'Uchronie, pour moi, ça n'est pas un refuge pour refuser un monde dont, qui serait d'une seule issue possible, un seul futur négatif. Au contraire, c'est de la quintessence de la science-fiction. Utiliser notre raison pour comprendre que le monde est celui que nous décidons qu'il va devenir. Et si nous décidons qu'il n'y a qu'un seul futur, eh ben, comme il n'y a eu qu'un seul passé, ben, c'est fini, il n'y a plus à discuter, il n'y a plus de spéculation, il n'y a plus de jeu d'idées, il n'y a qu'une idéologie dominante, et c'est le contraire de la raison. Voilà, à mon avis.
Bien, vu que vous êtes extrêmement bien lancé, on va continuer un petit peu, on nous rouvrira les questions un tout petit peu plus tard. Je note comme petit bilan d'étape que nous avons croisé des questions qui sont tangentielles par rapport à l'Uchronie. La question de la réinterprétation depuis le futur de notre présent, comment relire notre présent, et qui nous invite dans ce type de récit à nous poser la question du regard que nous portons sur notre propre passé, dans quelle mesure il n'y a pas une mesure de reconstruction. Nous avons rencontré aussi cette histoire de science-fiction à rebours, me fait penser que là il y a peut-être le point de contact entre le steampunk et l'Uchronie, les deux ayant des éléments de proximité éventuellement. Effectivement, nous avons déjà rencontré aussi la question de la pensée de l'histoire par l'Uchronie. Je suis tenté de laisser un peu de côté les univers parallèles en espérant que nous aurons le temps d'y revenir et de vous pousser un petit peu encore plus dans la voie de la question de la pensée de l'histoire et finalement de nous demander finalement ce que signifie cette idée de l'Uchronie comme expérience de pensée, en prolongeant ce que vient de dire Hugo Bellagamba, et finalement, dans quelle mesure l'Uchronie, et là j'aimerais, je ne vais pas orienter vos réponses, mais j'aimerais voir ce qu'on peut dire en rapprochant la pratique de l'Uchronie comme fiction de la pratique de l'écriture historique, du principe de la mise en intrigue, et dans quelle mesure l'Uchronie pourrait effectivement apporter quelque chose à la science de l'histoire.
Oui. En fait, le raisonnement de Renouvier est assez impitoyable et donc on ne peut pas, il le dit lui-même, il l'avoue à propos de son propre livre, on ne peut pas dire qu'on se livre à une histoire expérimentale quand on fait du chronique. Cependant, il est vrai qu'on voit une évolution de cette tension uchronique et donc de l'expérience de pensée au sein de l'histoire en fonction de même de l'évolution de la façon dont on racontait l'histoire. Si tu veux, pendant très longtemps, on faisait une histoire qui était une histoire des conquérants, des batailles. Et c'est pas un hasard, il y a beaucoup d'uchroniques qui sont sur qu'est-ce qui se serait passé si l'issue d'un conflit militaire avait été différente. Voilà. Mais il y a eu bien évidemment des histoires qui ont pris, la science historique a pris ses distances avec cette histoire des batailles, a beaucoup rétabli par exemple ensuite des visions différenciées des échelles de temps, des visions démographiques, des visions de ce sorte d'équilibre. Du coup on a aussi des uchronies qui à certains moments ont fait des hypothèses civilisationnelles. Donc, et nous disent des choses du type l'Empire romain ne s'effondre pas, qu'est-ce qu'il en devient, les Turcs deviennent la première puissance européenne et c'est eux qui colonisent l'Amérique, qu'est-ce qui devient, voilà, donc il y a eu ces choses-là. Et donc je pense que d'une certaine manière l'expérience de pensée accompagnera toujours le style de l'histoire. Si on fait une histoire du quotidien et sur les choses et comme ça, d'autres expériences de pensée viendront et on aura des expériences du fait que les goûts culinaires ont été complètement différents, ou voilà, le poivre n'aurait pas été présent. Donc, mais là, je parle à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur de la science, tout simplement la modification du style même de la science historique, qui ne repose beaucoup moins de nos jours, si tu veux, sur ce qu'on pouvait penser, un récit, une mise en récit. C'est pas ça le travail de l'historien. Le travail de l'historien, c'est de faire parler des sources ou des choses comme ça. Mais il va faire des expériences de pensée du type, mettons que l'une des explications, ça puisse être ça, eh bien, si je trouve telle source, ça le confirmera. Et ça, c'est vraiment de l'histoire expérimentale. Et d'une certaine manière, si on trouve une source qui confirme ou infirme, on se rendra compte que la tension uchronique aura joué dans un sens ou dans un autre. Et ce sera au travail de l'historiographie, comme ça, au fur et à mesure du temps qui passe et des historiens qui considèrent la méthode de l'enseignant, de voir quelle était la part d'uchronie et d'idéologie dans la construction des faits historiques. Voilà.
Bertrand Campès.
Alors, deux choses. La première, je pense toujours à ce qu'a écrit Éric Béhenrier, donc qui est l'auteur de deux énormes essais, L'histoire revisitée, Panorama de l'Uchronie sous toutes ses formes, qui sont parus aux éditions Les Belles Lettres. Moi, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est, je dirais à ce niveau-là, mon père spirituel en Uchronie, ça reste Eric, ça reste un ami avec qui on dialogue toujours par rapport à l'Uchronie, duquel j'apprends toujours beaucoup de choses. Et Dieu sait qu'en 10 ou 15 ans, j'allais dire, on a pu mettre énormément de choses sur le tapis. Lui part du principe, en partant de son expérience de chimiste, que l'Uchronie, c'est un peu comme un bac à chimie. On tente des expériences et on voit ce qu'il en ressort. Donc, quelque part, pour l'historien, c'est le moyen d'essayer, entre guillemets, en laboratoire, mais dans un laboratoire que vous recréez mentalement dans votre tête, de tester diverses hypothèses et de voir à peu près jusqu'où ça peut aller. Maintenant, on est tous les deux d'accord, enfin, peut-être que je m'engage un peu trop pour lui, pour penser que c'est une expérience qui ne peut être vécue sur le très court terme. Je vais citer un exemple que je suis depuis à peu près 10 ans. 1940, la France continue la guerre, qui a une expérience qui a été lancée par l'économiste Jacques Sapir avec le soutien de Frank Stora et Loïc Mahé. Donc c'est un site internet que vous pouvez retrouver le plus normalement du monde sur internet, qui a donné la publication pour l'instant de deux essais, on va dire, entre guillemets, où on imagine que suite à une série de circonstances, la France, en mai-juin 40, décide de continuer le combat, donc se retrouve totalement envahie par l'Allemagne nazie, mais se projette en Algérie et continue la guerre de ce côté-là. Donc la préface au premier tome de Jacques Sapir est extrêmement intéressante, parce que lui indique qu'il aurait voulu s'arrêter au bout de 6 mois. Parce qu'au-delà, quoi qu'on en dise, votre schéma de pensée, les idées que vous pouvez avoir, et moi ce que je considère aussi comme des biais, vraiment un mécanisme de pensée où vous allez estimer que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement, vont prendre le pas. Ça se voit dans n'importe quelle uchronie écrite justement par des auteurs de SF ou autre. On prend forcément une direction parce que c'est cette direction-là qui intéresse l'auteur de SF. Bah, en histoire, quoi qu'on en dise, c'est plutôt compliqué de pouvoir dire bah, ça ira dans cette direction-là plutôt que dans cette direction-là. C'est le coup, pour ainsi dire, jeter un caillou dans la mare. Les changements sont tellement énormes à imaginer qu'au bout d'un moment, justement, ça devient un peu trop exponentiel. Et le site, justement, bah, continue. Je crois qu'ils en sont, grosso modo, vers 43. Ils partent, il y en a déjà qui s'amusent à réécrire, justement, toute l'histoire de l'Europe et du reste du monde sur l'après-guerre froide et ainsi de suite. Donc ça devient, pour ma part, une espèce d'expérience, mais tout azimut, où soit on adhère complètement, soit on se dit c'est de la connerie et puis vous fermez votre fenêtre, soit on reste entre les deux en disant juste waouh. Et c'est vrai que, comme expérience, ça se pose.
Quelqu'un veut réagir ? Alors, une chose que je note, c'est finalement... Enfin, je note deux choses par rapport à vos réponses. Une première chose, c'est que Vincent Bontemps semble suggérer qu'il y a potentiellement un décalage qui peut s'instaurer entre une certaine manière de pratiquer l'histoire, qui va être une manière de repérer des éléments qui ne sont plus des éléments de type événementiel à proprement parler, mais des éléments de type culturel et civilisationnel, et que du coup ça peut instaurer un décalage avec ce qui est praticable dans la mise en récit à ce moment-là, dans le cadre de la fiction, puisque finalement la fiction reste beaucoup sur une logique événementielle, sans forcément, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les deux auteurs présents ne sont pas forcément représentatifs de cette logique de l'histoire des batailles, d'ailleurs, mais que finalement, l'alternative à ce moment-là, c'est l'histoire intime, c'est le suivre un personnage dans un cadre général, ou faire des grandes fresques, effectivement, comme dans la chronique des années noires de Kim Stanley Robinson. Donc il y a potentiellement, me semble-t-il, une difficulté méthodologique qui est que, d'une certaine façon, la pratique de l'histoire ne pourra pas être mimée totalement, enfin, reprise de toute façon, que les voix seront différentes. Et finalement, il me semble que ça va un peu dans le même sens que ce que Bertrand Campaïs peut indiquer, c'est-à-dire le fait que l'expérience de pensée en histoire devient de la fiction. Très progressivement, et que finalement la démarche même de l'Uchronie est par essence est presque plus une expérience en fiction qu'une expérience en pensée.
Vous avez plusieurs termes qui réapparaissent souvent au niveau justement de l'Uchronie. qui reviennent même un peu en force ces derniers temps par une communauté scientifique qui tient à déclarer quand même que ce qu'ils font, c'est des choses sérieuses et c'est pas l'île aux enfants de Casimir qui s'est dotée de l'arme nucléaire et qui menace l'Angleterre. C'est Histoire-Fiction qui, au tout début, dans les années 60-70, thématisé l'Uchronie, j'en ai quelques exemples, et surtout maintenant, ce qui revient en force, c'est Histoire contrefactuelle. Alors que théoriquement, si vous y regardez en grattant un peu la couche, je vous dis, bah, c'est de l'Uchronie. En fait, vous avez déjà un mot pour pouvoir tout définir.
Oui, moi je crois qu'on ne cesse de réinventer le schéma de Renouvier et ses limites. Ce que je voulais dire, c'était que dans la pratique historienne, finalement, ça a été intégré, peut-être sans utiliser le mot Uchronie, mais il a été intégré que précisément, il y avait une part fictionnelle dans certaines façons de faire l'histoire. Et l'histoire, c'est avant tout l'interprétation des traces. Donc, le passé peut bouger quand on trouve de nouvelles traces. Il peut bouger aussi quand on change la grille interprétative de ces traces. Mais il peut aussi être animé par une mise en récit même minimum. Et il y a plein de stratégies qui ont un truc. Ce que tu décris comme des stratégies narratives, finalement, la microstoria, à partir des années 90, c'était bien de suivre un personnage dans son village et de se concentrer là-dessus à partir de ses traces, d'essayer de restituer le tissu de son intimité. Mais dedans se reflétaient en fait tous les facteurs civilisationnels à grande échelle. Ça ne changeait pas grand-chose. Donc on peut avoir plein de stratégies. Et je crois que ce que fait l'histoire, c'est précisément de mesurer à travers l'Uchronie pas tant la divergence que la partie qui lui reste de fiction à l'intérieur d'elle-même, si tu veux. Et ça peut, la découverte de ça peut se faire quand le cadre explicatif, la façon de traiter l'historiographie se modifie. Ça peut se faire aussi quand on découvre de nouvelles traces qui font que, ah ben, on réinterprète complètement le schéma des événements, on se rend compte qu'on décrivait un passé uchronique, parce qu'on est dans un phénomène de correction. Regarde que ça a toujours été le cas. Tacite, quand il écrit son histoire, il y a un moment donné où il dit, bon, c'est la deuxième fois que j'évoque un génie militaire. J'ai parlé d'Alexandre, je parle maintenant de César. Est-ce que les légions de César auraient vaincu les phalanges... C'est Tite-Live. Pas Tacite, bien sûr, c'est Tite-Live. Est-ce qu'auraient vaincu les phalanges d'Alexandre? Et donc, il pose une expérience de pensée qui n'est pas une uchronie, mais qui est clairement un jeu de manipulation, comme tu disais, là, voilà. Et on en perçoit les limites, quoi. On perçoit que c'est très intéressant pour sortir des cadres préétablis, mais qu'en termes de construction, quand on reste dans l'exercice purement historique, il faut faire attention. Je ne crois pas à la valeur scientifique, en effet, de Sapir, au-delà du jeu des hypothèses au départ.
Mais pour moi, de toute façon, j'ai toujours déclaré l'Uchronie, c'est un jeu intellectuel. Ne jamais oublier la dimension ludique. On n'a pas prétention, pour ainsi dire, non pas à réinventer la roue, mais à refaire l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire.
Juste l'intérêt, c'est peut-être de rappeler la dimension de jeu dans l'histoire et la discipline historique. J'aimerais bien, bien sûr, Hugo, tu pourras prendre la parole, mais j'aimerais bien entendre un petit peu Christophe Lambert et Hugo Bellagamba sur la question, justement, du parcours individuel dans l'Uchronie. Hein. Finalement, qu'est-ce que c'est que d'écrire le parcours d'un personnage dans ce type d'environnement modifié?
Bah, comme dans un roman historique, voilà, il faut être cohérent avec les bases que vous avez posées, aussi bien pour la psychologie du personnage que pour son environnement. Donc ce sont dans les deux cas des questions de pure logique, je dirais. Là, je vous avoue que je suis un peu largué. Moi, je suis pas un universitaire, je ne suis pas un érudit. Je suis un auteur, donc
mais
je
alors,
peux vous parler
il
de mes
me semble
bouquins,
quand même
si
que dans, pour aucun homme n'est une île, par exemple, parler de logique et de cohérence, c'est une chose, je vois tout à fait la perspective, mais il me semble que là, il y a un travail de documentation.
Vous parlez de la dimension ludique aussi
et, bah, pourquoi pas, très bien. Il y a un travail de documentation, notamment pour accréditer la personnalité des Mingwe.
La documentation, c'est un tremplin pour l'imagination, et ça, c'est aussi valable dans le roman historique. L'avantage de l'Uchronie, c'est qu'on a tous les avantages en tant qu'auteur du roman historique, mais pas les inconvénients. J'entends par tous les avantages la documentation à disposition. Donc moi, c'est la période de travail que j'adore, c'est mettre des post-it dans les livres, annoter, rêvasser, voir cette espèce de Rubik's Cube mental qui se façonne petit à petit. Et puis, contrairement au roman historique où on risque de se brouiller avec quantité de chapelles de gens qui ont étudié la chose beaucoup plus longtemps que l'auteur, à partir du point de bascule, on peut délirer librement, sans entrave. Donc voilà pourquoi j'aime délirer librement tout en étant logique, voilà. Bien sûr, avec la friction qu'on a créée, quoi.
Tout à fait.
Juste pour ajouter, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est parti sur beaucoup d'analyses, on va dire, universitaires, je ne sais pas, mais en tout cas intellectuelles de l'Uchronie. Il ne faut pas oublier deux choses hein, qui sont vraiment essentielles. Et moi, il se trouve que j'ai un peu étudié l'Uchronie à l'université, mais un peu, parce qu'on ne m'a pas laissé vraiment faire à l'époque. Mais c'est d'abord et avant tout un récit. Hein. Donc il faut d'abord et avant tout raconter une histoire avec des personnages, faire vivre quelque chose de divertissant. Et donc faire de l'Uchronie, ce n'est pas faire de l'histoire, c'est clair et net. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'il n'y a pas de rapport véritablement entre l'Uchronie et l'histoire, pour la bonne et simple raison que, à part dans le cas de Loïc Mahé, où des historiens et des philosophes professionnels qui utilisent l'Uchronie comme un outil spéculatif, l'auteur, lorsqu'il fait une Uchronie, il lit des historiens. Il faut bien être clair sur ça, c'est-à-dire qu'un auteur qui écrit une Uchronie, un auteur comme Christophe ou comme moi, lorsqu'on écrit des Uchronies, on lit des historiens pour écrire ces Uchronies. Robert Silverberg, qui a fait beaucoup d'Uchronies, il a lu des historiens. Et donc, les idées qui sont celles des historiens vont influencer l'auteur qui écrit l'Uchronie. Elles vont l'orienter dans certaines décisions, sur son choix de divergence, sur la manière dont il va réinventer l'histoire de Rome ou réinventer l'histoire de l'Europe, etc. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'Uchronie n'est pas un jeu sur l'histoire du point de vue de l'auteur. C'est un jeu sur ce qu'on garde des lectures qu'on a faites, des historiens que l'on a aimés. Et bien souvent, d'ailleurs, parce que tu citais les différentes formes de socio-histoire, histoire scientifique, etc., bien souvent, l'auteur d'Uchronie, il est un peu en retard, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'auteur de science-fiction qui écrit de la science-fiction un peu à tendance scientifique. Il n'est pas toujours au fait des dernières découvertes parce qu'elles ne sont pas encore entrées dans le champ de la vulgarisation. Un auteur d'Uchronie, il écrit une Uchronie par rapport à des historiens qui sont souvent des historiens déjà établis, déjà reconnus, déjà majoritairement lus. Et il va s'emparer de ces historiens et dire « Tiens, là, il y a quelque chose de narrativement intéressant, je vais partir sur cette divergence-là. » Et donc, bien souvent, je dirais que l'Uchronie a plus de rapport avec l'historiographie, c'est-à-dire la manière dont on écrit l'histoire, que l'histoire elle-même. Hein. En réalité, un auteur d'Uchronie, et moi je suis historien du droit, mais pas historien, et quand j'écris des Uchronies, je ne fais pas œuvre d'historien, je fais œuvre d'auteur, tout simplement, comme Christophe, hein, de ce point de vue-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très réjouissant de réaliser qu'aujourd'hui, enfin, comme la science-fiction, enfin, l'Uchronie est entrée dans le champ de la recherche universitaire et qu'elle n'en sortira pas de sitôt, je pense.
Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je ne vais pas garder la piste historique forcément la plus vraisemblable ou la plus communément admise, mais je vais garder celle qui apporte de l'eau à mon moulin d'un point de vue dramatique, celle qui sert mon histoire.
Alors, j'aimerais me tourner vers le public, mais si quelqu'un veut conclure enfin, sur ce qu'on vient de dire,
la notion de vraisemblable historique est très importante. C'est un jeu sur la latitude qu'on peut s'accorder là-dessus. Jusqu'où on peut pousser le bouchon par moment, tout en gardant une consistance qui est la cohérence d'un monde historique. Et donc, de ce côté-là, il y a des expériences de pensée philosophiques, notamment, on l'a écarté, mais je veux dire, les mondes alternatifs qui étaient chez Leibniz ou Malebranche et tout ça, qui étaient déjà de ce mode un peu spéculatif et qui provoquent toujours une excitation et un plaisir. Il faut bien dire que l'Uchronie provoque en nous une excitation et un plaisir.
Moi, je terminerai juste sur une question, mais ouverte finalement à la totalité du public. Demandez-vous à quel point peut-on classifier l'Uchronie en tant que genre ? Ouais. Est-ce que c'en est un ?
Effectivement, oui, nous en reparlerons à l'université. J'ouvre la parole au public pour ne pas occuper moi-même l'espace sonore, sauf s'il n'y a pas de questions, auquel cas je serais ravi d'en poser moi-même. Donc il y a une question là-bas. Une autre ici. Je ne sais pas combien de temps on aura le temps de traiter. Il y a quand même beaucoup à dire à chaque fois.
Bonjour. Vous avez expliqué que, notamment dans l'Uchronie, il y a quelque part souvent, le départ, c'est une bifurcation. Et si que, et s'il n'est Cléopâtre, etc. Moi, ce qui me frappe entre les deux genres, science-fiction et Uchronie, c'est que dans la science-fiction, il y a quand même beaucoup de ruptures qui sont d'origine scientifique ou technologique. C'est-à-dire que dans la science-fiction, on explore des champs scientifiques... alors que l'Uchronie est plutôt basée sur les personnages, sur les mouvements. Et sur Donc, dans l'Uchronie, je vois assez peu, peut-être que ma culture n'est pas assez forte, je vois assez peu d'Uchronie qui part d'une rupture technologique qui aurait lieu il y a 200-300 ans et qui aurait fait évoluer le monde différemment.
En fait, s'il y a une rupture qui est souvent en termes d'acteurs, il y a un événement. Après, ce que j'observe, moi, c'est que souvent, ça provoque quelque chose sur le rythme du progrès ou supposé du progrès.
parfois il y a un télescopage des technologies, hein, le steampunk notamment.
Il y a un type qui s'appelle Hugo Bellagamba qui a écrit une uchronie, un vague truc qui doit s'appeler Tancred, où à un moment ils inventent, ça ressemble à une machine à vapeur.
Oui, en fait, on peut jouer sur ça dans un second temps. Bertrand, merci. On peut jouer sur ça dans un second temps, en fait. C'est-à-dire que l'uchronie peut amener une accélération technologique ou un ralentissement technologique selon la manière dont on va envisager le monde que l'on crée. Alors, il y a toujours le souci de la cohérence, évidemment. Mais souvent, la technologie est présente malgré tout. C'est-à-dire que l'industrialisation, par exemple, est parfois accélérée, parfois retardée. Parfois, c'est des machines à vapeur qui vont venir être découvertes et avoir une influence plus rapide ou alors plus longue. Et donc, il y a quand même... Il faut pas, à mon avis, il faut éviter la dichotomie, la séparation science exacte, science humaine. Je pense que l'uchronie intéresse les sociétés dans leur évolution. Et dans l'évolution des sociétés, il y a forcément le rapport à la science et forcément le rapport à la technique. Donc, il y a toujours un moment donné où l'uchronie vient poser aussi une problématique technologique.
Moi, je dirais qu'on reconnaît une uchronie au fait qu'il y a des zeppelins aussi. Hein.
Des zeppelins. Une autre question ?
Oui, bonjour. J'étais un petit peu étonné à un moment d'entendre que l'an 2440 était considéré comme une uchronie. Je vois plus ça comme une utopie.
Oui. Juste en face. Là.
Ici.
Ah, oui, oui.
Et si on considère ça comme une uchronie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire remonter l'Uchronie encore plus loin, comme les États et empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac, oui, ou peut-être autre chose
voilà. Alors, pour vous répondre très clairement, j'assume le côté de nommer l'an 2440 Uchronie. Je le fais dans mes cours d'histoire des idées politiques à la faculté de droit, parce qu'au sens strict, c'en est une. C'est-à-dire que c'est la première utopie à situer l'ailleurs dans le futur. Et donc, au sens strict du terme, c'est un autre temps, donc c'est un Uchronos. Parce que Louis-Sébastien Mercier s'envoie lui-même, en fait, hein, 700 ans dans le futur. Et en réalité, son futur n'est pas du tout crédible. La monarchie française est encore en place. Aucun changement institutionnel n'a eu lieu, sinon que le roi a un cabinet de curiosité et adore les sciences. Donc au sens étymologique du terme, c'est une uchronie. Par contre, effectivement, elle ne correspond pas à la définition de l'uchronie telle que l'ont très bien donnée en début de table ronde Bertrand et Vincent. Mais c'est une sorte, pour moi... Moi, j'aime bien voir l'origine de la science-fiction dans le XVIIIe siècle. La pratique de la raison au XVIIIe siècle, la manière dont on interroge le monde, me semble l'un des fondements de la science-fiction. Et du coup, je pense que l'uchronie y trouve aussi ses sources. Voilà. Après, c'est vrai qu'on pourrait revenir. Voilà. Il y a une date qu'on n'a pas citée, qu'on avait déjà citée ensemble, Simon, dans une autre table ronde, qui est une date aussi qui est intéressante. C'est l'anthologie d'uchronie qui avait été faite en 1931 en Angleterre par Joan Collins Squire, où vous aviez... un ensemble de récits uchroniques faits par souvent des hommes politiques ou des intellectuels, hein, qui n'avaient pas une dimension très fictionnelle en réalité, mais qui avaient une dimension très spéculative. Et là aussi, on pourrait considérer que les années 30 sont aussi un signe précurseur de la vogue qui va venir ensuite pour toutes les uchronies. Voilà. Donc vraiment, l'an 2440, c'est une uchronie au cas particulier, véritablement.
Merci,
voilà. Merci à vous, hein, pour cette question.
Est-ce qu'il y avait une autre question ? Une dernière question ici.
Une question aussi. Oui, bonjour. D'un point de vue littéraire, comment vous considérez, à la différence de l'uchronie, là où, à partir d'un point pivot, comme ça a été évoqué, on a une réalité alternative, une histoire alternative, les récits qui vont préserver l'histoire, mais qui vont modifier la cause des événements. C'est-à-dire que l'histoire est complètement identique, sauf que cet événement a été causé par d'autres raisons que celles qui sont communément connues de l'histoire réelle.
Bah, c'est de l'histoire secrète.
Oui, mais justement, est-ce que c'est considéré comme une
uchronie ? Non, c'est de l'histoire secrète.
C'est son point depuis le début, hein, c'est qu'il est en train de dire que ça va être difficile de maintenir l'uchronie comme un genre vraiment étanche et que de tous les côtés, tu vas pouvoir en fait trouver des franges. Hein, depuis le début, et c'est pour ça qu'il a cité de l'histoire fantastique.
Le Nautilus prend l'eau de toutes parts, capitaine.
Voilà. Et donc, Voilà.
Non, si on rentre dans une question de chapelle, c'est de l'histoire secrète, c'est les trois mousquetaires. C'est l'histoire du masque de fer, c'est tout un tas de trucs où on a le sentiment qu'on peut expliquer, pour ainsi dire. Enfin, Éric Henry en parlerait nettement mieux que moi, je suis désolé pour vous. L'histoire semble la même, mais en dessous, il y a des soubresauts, il y a des complots, il y a des trucs pas très très catholiques. Mais par contre, quand on va regarder, on dit, ah bah oui, bah, c'est l'histoire telle qu'on nous enseigne limite à l'école. Non, c'est bon.
Alors, une toute petite question pour finir.
Ah. Bonjour. Quand je vois certaines thématiques récurrentes dans les livres comme Le Maître du Haut Château de Cadix ou Fatherland de Robert Harris, est-ce qu'on ne rejoint pas parfois aussi la dystopie justement au travers de l'Uchronie?
Ah si, complètement. C'est, on aime se faire peur. J'allais dire, qui voudrait imaginer un monde finalement où tout est pour le mieux, où tout va très bien? Là, automatiquement, vous regardez autour de vous, vous vous dites, merde, qu'est-ce qu'on a raté? Où sont les voitures volantes? Pour revenir sur une thématique.
Alors, il faut des résonances fortes. La science-fiction utopique existe quand même.
Il faut des résonances fortes avec le présent. Et par conséquent, il y a des choses qui sont de l'ordre du regret, hein, le regret impérial dans pas mal d'écrits. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la hantise, la crainte et donc le soulagement de ne pas appartenir. Donc, c'est vraiment le cas aussi, d'une certaine manière, avec Woodward et Autant on emporte le temps. C'est le cas avec Le Maître du Haut Château qui a en plus un twist très particulier sur les univers parallèles puisque l'univers qui s'est bien terminé n'est pas le nôtre. Voilà. Donc bah, même ça c'est Philippe K. Dick une fois de plus, il est plus malin et ça peut être aussi de la culpabilité. La culpabilité c'est voilà, si ça s'était bien passé la rencontre des civilisations quand on a découvert l'Amérique ou des choses comme ça que les Américains vont porter avec eux, ça se voit même dans Roma Aeterna où parce que l'Empire romain essaye dans de mauvaises conditions en fait ils n'arrivent pas à coloniser l'Amérique parce que des Vikings leur ont déjà transmis la technologie et que du coup ils se plantent. Donc il faut des ressorts forts et donc le point de l'utopie n'est pas plus attirant que le point de la dystopie pour faire la focale.
Et puis je terminerai sur une boutade. Regardez Wolfenstein The New Order ou The New Colossus qui vient juste de sortir. Pourquoi nous enlever le plaisir ô combien jubilatoire d'aller buter du nazi, fût-ce à coup de pixels?
Alors, pour mettre de côté les nazis et terminer sur l'idée des uchronies positives, si vous voulez en lire qui soit moins tourné vers la dystopie, lisez nos auteurs, Hugo Bellagamba et Christophe Lambert, qui ne sont pas tellement dans cette perspective, ou lisez par exemple Rêve de gloire de Roland C. Wagner, qui de la même façon réfléchit à une uchronie positive. Je remercie nos intervenants, je remercie le public, et je vous souhaite une bonne fin de festival.